Il y a plus de 20 ans, Pika Éditions publiait ses premiers volumes de manga en France. Aujourd'hui, cette maison d'édition compte plus de 1800 titres à son catalogue et continue de nous faire connaître des œuvres rassemblées autour d'une idée, la création et l'inspiration japonaise. Un manga, c'est environ 350 grammes de papier, de dessins, de dialogues, mais c'est surtout un long voyage autour du monde, des auteurs japonais jusqu'à nos mains de passionnés en France. Et pendant ce voyage, des tas de petites mains se relaient pour réussir l'exploit de nous faire découvrir tous ces personnages qu'on va adorer ou adorer détester. Bienvenue dans le Pika Podcast, un nouveau format que la maison d'édition Pika, spécialisée en manga, a choisi pour vous faire vous aussi voyager et retracer le trajet de vos mangas préférés. Je suis Amandine, et je serai votre hôte durant toute cette saison pour lever le voile sur le mystère de l'adaptation ou de la création d'un manga. Nos invités aujourd'hui sont Yann-Anaël Guillaume et Christophe Loupiac. Yann-Anaël est commercial, VRP, dans le secteur de la diffusion. Il travaille depuis 2018 dans le livre et il lit des mangas depuis 25 ans. Christophe, quant à lui, est commercial mais spécialisé dans les relations éditeurs. Il travaille dans le milieu depuis 30 ans et lit des mangas depuis les années 2000. Bonjour Christophe, bonjour Yann-Anaël et bienvenue dans le Pika Podcast. Comment allez-vous ?
Super. Bonjour Amandine, ça va très bien.
Eh bien, c'est votre épisode aujourd'hui. On va parler de diffusion de diffuseurs, puisqu'on a parlé de chargé de relations libraires et diffuseurs le mois dernier. Donc, on va pouvoir attaquer ce sujet un petit peu plus en détail. Vous êtes prêts à passer à la casserole ?
On est toujours prêts.
Alors, on va commencer par la question un petit peu classique, entre guillemets, de notre podcast, en vous demandant quels sont les métiers et les responsabilités qui englobent finalement le métier de la diffusion.
Alors, le métier de la diffusion, c'est un métier qui est assez large. Alors déjà, c'est un des trois grands métiers de l'univers du livre, hein, puisque vous avez déjà parlé de l'édition, les éditeurs, vous avez sans doute parlé de la distribution, et nous, on est entre les deux, donc la diffusion, et notre rôle principal, mission principale, c'est de vendre les ouvrages, les titres et les séries que nous donnent l'éditeur Pika et Nobi à nos différents libraires, quels qu'ils soient. Ça, c'est vraiment le cœur de notre métier et c'est notre mission principale. Au sein de ça, il y a plusieurs métiers. Il y a des représentants dont fait partie Yann-Anaël, qui sont eux plutôt sur des secteurs, on dit sur la route, voilà, qui rencontrent au quotidien les libraires. Et puis, il y a des métiers qui sont plutôt des fonctions dites de support, qui sont au siège et qui ont différentes missions. Pour réussir dans ce métier, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, il faut avoir une fibre commerciale. Mmh. Parce qu'on est là pour vendre le plus possible, le mieux possible. Donc, la partie représentant, je vais plutôt, je laisserai Yann-Anaël en parler un peu plus tard. Moi, je vais essayer de m'attacher à nos missions ici au bureau. Donc, on a au bureau deux types de populations. Allez, trois même. On a des commerciaux plutôt sédentaires et qui sont plutôt en charge des relations qu'on a avec les grandes enseignes, que sont la Fnac, Cultura, Carrefour et autres. Et puis, on a une personne qui s'occupe plutôt de toute l'analyse, toutes les analyses qu'on peut faire sur nos ventes, qui prépare tous les outils qu'on met à disposition de l'ensemble de nos commerciaux pour qu'ils puissent présenter dans les meilleures conditions et avec les meilleurs éléments les différents programmes des éditeurs qu'on représente. Et la troisième personne, c'est une personne qui est en relation directe avec les éditeurs, donc avec les équipes de Pika et de Nobi, et qui construit les programmes de nouveautés, d'opérations pour justement transmettre ces infos-là aux représentants.
Donc un métier finalement très large avec beaucoup de ramifications, j'ai l'impression. Et est-ce qu'il y aurait des spécificités liées au milieu du manga dans le métier de la diffusion ?
Alors c'est un métier qui est très vaste et il n'y a pas vraiment de spécificités qui sont liées au manga. La seule spécificité en fait, c'est qu'on n'adresse pas forcément les mêmes clients que sur la bande dessinée ou sur la littérature, puisque on a quand même aujourd'hui un certain nombre de magasins spécialisés en manga. Donc, on fait des choses un peu différentes avec eux.
Et par là, je pense que tu entends opérations commerciales ou...
Alors, il y a effectivement des opérations commerciales. Il y a une manière de présenter les choses. La gamme qui est présentée dans les magasins, elle est beaucoup plus large dans ce type de magasin spécialisé que dans dans d'autres types de points de vente.
Qui vendent toutes sortes de livres, en fait.
Qui vendent, en fait, qu'on dit librairie plus généraliste.
D'accord. Du coup, le métier diffuseur, et là, je pense que la question, elle va être plus pour Yanaël, ça place en contact direct avec les librairies. Est-ce qu'il y a une composante un petit peu d'éducation, entre guillemets, sur le milieu du manga dans ce métier? Quoique, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, peut-être.
Oui, bah, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une composante d'éducation. On va dire que c'est un plus. Mais honnêtement, comme l'a dit Christophe, hein, à la base, on est des commerciaux. Donc, notre but, c'est de vendre et de vendre bien et de vendre fort. Donc, je pense que même des gens qui, à la base, connaissaient pas forcément le manga, sont tout à fait capables de présenter des collections Pika et Nobi. Après, voilà, quand on est passionné de manga, bien évidemment, ça aide. Et on a pas mal d'informations qui sont mises à notre disposition justement pour nous aider sur ce terrain.
Vu que tu lis des mangas depuis un certain temps, je pense qu'effectivement, en tant que passionné du manga, ça va, tu te poses là.
C'est ça.
Du coup, vous travaillez également au quotidien avec les éditeurs. Comment ça se passe, ces échanges-là, dans votre vie professionnelle au bureau?
Alors, en fait, nous, sur le manga et avec Pika et Nobi, on a plusieurs niveaux de travail. On travaille bien en amont de la parution du titre. On a des présentations des différents programmes qui sont faits par les éditeurs ou par les équipes de marketing de la maison d'édition. On essaye de bien comprendre quels sont les enjeux, la manière avec laquelle Pika ou Nobi ont envie de lancer une nouvelle série ou une suite et l'ambition en fait de vente sur ce titre-là. Donc, on discute bien en amont avec eux. On essaye de construire avec eux des plans de lancement qui soient cohérents et adaptés pour chacun des titres ou chacune des nouvelles séries. Et puis, on construit aussi avec eux une forme d'argumentaire qu'on fournira à nos représentants pour qu'eux puissent transmettre ces argumentaires et ces présentations aux différents libraires, pour que les libraires puissent à la fois s'imprégner du titre, de l'histoire, et avoir un maximum d'éléments pour que eux puissent transmettre ça à leurs lecteurs potentiels. Ça, c'est une partie de notre boulot. On détermine aussi une ambition. Enfin, on essaye de déterminer ensemble une ambition de vente cohérente et par typologie de point de vente. Parce qu'on vend pas, ce que je disais tout à l'heure hein, sur la librairie spécialisée manga, on vend pas forcément la même chose quand on est dans une librairie spécialisée que quand on est dans une librairie généraliste ou quand on est dans un magasin spécialisé dans la culture du type d'une enseigne Fnac ou Cultura. Donc tout ça, c'est avant la parution du livre. Après, on prépare donc tous les éléments de présentation des ouvrages pour nos commerciaux. Après, il y a tout le boulot du commercial qui va visiter son libraire et présenter l'ensemble des programmes, l'ensemble des titres. Donc ça, c'est avant parution. Et on a aussi une part importante de notre travail qui se fait à la parution ou après la parution. C'est, il faut s'assurer que tous les libraires aient bien reçu les livres. Donc là, on a une relation entre le libraire et la distribution, dont je crois que vous parlerez un peu plus tard dans le podcast Pika. Et puis, on a toute la partie d'analyse de vente, où là, bah, on sort des chiffres très régulièrement. Alors, tous les jours, ce serait ambitieux de le dire, mais presque, voilà, pour analyser ce que donne chacune des parutions, comparer avec d'autres séries, et aider aussi l'éditeur dans une potentielle réimpression ou définir un objectif de référence, une vente pour le titre d'après ou une série qui pourrait être comparable.
Mais on en avait parlé un peu dans les anciens épisodes. Par contre, votre travail, vous, de parler avec les éditeurs et même d'aller voir les librairies, c'est bien avant, en fait, la sortie en librairie. Donc, en termes de timing, il me semblait que c'était 6 mois.
Les premières présentations des futures parutions de Pika, elles se font pour nous au moins 6 mois avant, parfois même bien en amont de ça. Et après, on commence à travailler sérieusement le programme entre 3 et 4 mois avant la parution du titre. Et en règle générale, 2 mois avant la parution du titre, on transmet tous les éléments aux représentants qui, là, démarrent leur tournée et vont visiter chacun des libraires pour leur présenter et leur vendre les parutions des mois concernés.
Mais ce que je trouve incroyable, c'est que vous savez déjà quels seront les hits dans 6 mois, quoi. Vous les avez déjà entre les mains, quelque part.
Oui, presque. Alors, j'hésite parce que... malheureusement, on ne sait pas quels seront les hits.
Oui.
On aimerait bien savoir, même si Pika et Nobby sortent beaucoup de hits, on aimerait bien savoir quelles seront les meilleures ventes pour voilà.
Les remplaçants de l'Attaque des Titans, tout ça.
Par exemple. Mais on n'arrive pas encore à le faire, ça. Enfin, pas totalement.
Pas totalement, ce serait bien, non, pas totalement. Donc, on avait parlé également, dans le dernier épisode, des zones de diffusion, hein, que la France était divisée en zones de diffusion. Ça, je pense que c'est également plus la place, entre guillemets, d'Yana El de répondre. Quelle est la taille environ d'une zone de diffusion? Parce que j'arrive vraiment pas à me faire cette idée de à quoi ça peut ressembler.
Alors, la taille, elle est assez variable en termes géographiques. Hein. Il faut savoir qu'on est 13 représentants à se partager toute la France pour Pika et Nobby. Il faut savoir qu'on a tous le même secteur en termes de chiffre d'affaires, globalement.
Hein,
mais après, la table est variable, c'est-à-dire qu'un représentant parisien, forcément, son secteur ne va pas être exponentiellement gros. Hein, mais les représentants dits de province, ils englobent généralement 7, 8, voire 10 départements.
Je pense que là où j'habite, il n'y a pas grand monde, donc ça doit être une très grosse zone. Et comment ça se passe, la gestion de cette zone de diffusion au quotidien, du coup?
Bah après, je pense qu'on a tous notre manière de travailler, mais globalement, on a un pseudo plan de tournée, hein, qu'on respecte à peu près sur chaque schéma de tournée. On a nos listings de nos clients, on doit tous les visiter dans un temps imparti. La journée, c'est 90% prise de rendez-vous, à se déplacer chez le libraire, faire le rendez-vous. Et l'administratif, parce que quand on rentre chez nous, la journée n'est pas finie. Il y a quand même un peu de boulot à la maison. Et les 10 petits pourtant qui restent, on va dire que c'est la lecture, parce qu'on vend quand même mieux quand on lit les livres qu'on vend.
Ouais. Du coup, c'est un métier qui est assez indépendant, j'ai l'impression, par contre.
Ah, on est complètement indépendant. Oui, on est. C'est un métier solitaire. Hein. De toute façon, on est seul sur la route.
Ah, solitaire. Et vous rencontrez les libraires.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que notre gestion au quotidien se fait en solitaire. Heureusement, on se voit quand même régulièrement et on échange régulièrement entre équipes pour s'apporter plus ou moins chacun des petites techniques.
Et je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent également, puisque finalement, c'est deux métiers qui sont un petit peu, au croisement, hein, qu'il y avait pas mal d'espèces de réunions où justement vous échangez un peu aussi sur les prochains titres pour que vous soyez tous à jour sur ce catalogue.
Oui, alors c'est tout à fait ça. On va dire globalement, c'est tous les 2 mois et demi, 3 mois. On a ce qu'on appelle des séminaires, donc c'est-à-dire que tous les représentants Pika Nobby se réunissent et on a l'éditeur, donc Pika et Nobby, qui viennent faire la présentation des futurs titres qu'on va devoir présenter au libraire sur la prochaine tournée.
Donc ça, c'était la journée type du coup d'un commercial, donc qui va aller.
C'était exactement ça.
Qui va aller taper à la porte entre guillemets des libraires, etc. Et la journée type d'un Christophe, qu'est-ce que c'est?
Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y a que Christophe, il a une journée type parce que il fait plein de choses assez différentes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. En règle générale, il commence par regarder ses chiffres parce que c'est quand même important de savoir ce que.
Donc, quand tu disais chiffres, c'est le nombre de tomes qui ont été vendus dans les librairies.
Voilà, c'est le chiffre d'affaires global et puis de regarder un peu quelles sont les meilleures ventes, comment se comporte le dernier titre paru. Voilà, c'est un peu essayer d'analyser tout ça au plus proche. Pour pouvoir donner à la fois les bonnes informations aux représentants sur la route en leur disant « attention, il y a ça qui démarre très fort, donc regardez bien, reparlez-en à votre libraire pour qu'il puisse éventuellement refaire une mise en avant dans la librairie ou passer une commande de réassort, voilà, puisqu'il en a plus ou un peu moins, et donc il faut qu'on essaye de garder la meilleure visibilité possible pour le titre de nos éditeurs. » Donc ça, c'est un peu le début de la journée. Et puis après, il y a toute la gestion des différents rendez-vous avec les éditeurs pour travailler sur les programmes à venir ou leur faire un retour sur ce qui est en cours, justement sur la prospection, voilà, sur où en sont les représentants sur la vente des titres à paraître. C'est aussi répondre à des demandes clients qui un peu spécifiques parce que le client a pas reçu la nouveauté du jour ou a pas reçu sa commande, donc il faut essayer de lui répondre au plus vite. Et puis moi je suis aussi là pour répondre aux interrogations, différentes questions et problématiques de mes représentants. C'est un peu aussi mon boulot. J'ai souvent tendance à leur demander s'ils ont des interrogations, des remarques, des angoisses, parce que c'est vrai que le métier de représentante est un métier très autonome. Ils sont un peu seuls dans leur voiture avec leur catalogue et leurs clients. Et parfois, il faut aussi les accompagner pour les encourager, les réconforter, pour que tout se passe pour le mieux.
Et finalement, j'ai l'impression qu'en filigrane, l'objectif, c'est que quand des lecteurs et des lectrices veulent acheter un tome Pika ou Nobby Nobby, c'est qu'ils soient disponibles à la librairie, finalement.
C'est ce pourquoi on est là.
Donc, c'est vos deux journées types qui, finalement, sont très différentes, même si vous faites un métier qui vient du même, entre guillemets, domaine. Et on va arriver un petit peu à la virgule de ce podcast. On va arriver à la pika question. On va vous demander, puisque vous êtes des lecteurs et des fans de manga tous les deux, quel est, selon vous, le manga qui mériterait peut-être un petit peu plus d'amour, justement, un petit peu plus de visibilité? Et puis, surtout, pourquoi on doit le lire?
Bon, alors je vais commencer. J'aurais eu très envie de dire mon petit chouchou, Journey Beyond Heaven, mais qui a déjà été cité dans un précédent podcast.
C'était pas le premier donc, à dire ça, donc c'est vraiment un chouchou.
Donc je vais changer mon fusil d'épaule. Mm-hmm. Et moi, je voudrais mettre un peu en lumière la série The Fable, mm-hmm. ou The Fable, ça dépend. La prononciation est libre à chacun, mais c'est une série que j'affectionne particulièrement. Alors, on est sur du seinen, hein. De toute façon, on est sur du manga un peu plus adulte, et on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Akira Sato, ou alias The Fable, qui est un vrai tueur à gages depuis sa naissance, le meilleur sur le marché. Il réalise les contrats en quelques secondes, voire quelques minutes, personne ne lui arrive à la cheville, sauf qu'un beau jour, son patron va lui donner une mission un peu atypique, il va lui demander de vivre un an sans tuer personne. Donc, de là commence la vie de Akira Sato, une vie complètement chamboulée, puisque bien évidemment ce jeune homme, il est inadapté à la vie normale. Il est complètement asociable. Il ne sait pas décrypter les comportements humains, la gestion des émotions. Donc, il est complètement perdu et il a un peu, on va dire, presque de la candeur, de la naïveté dans son comportement, et il lui suffit d'appuyer sur un petit bouton sur son crâne pour passer en mode tueur à gages. Donc c'est vraiment un titre très décalé, mm-hmm. beaucoup d'action, beaucoup d'humour, assez atypique, et je le conseille bien évidemment à tous les amateurs de Tarantino, parce que je pense qu'ils se retrouveront là-dedans.
Donc c'est plutôt gore alors?
C'est pas gore, c'est pas dans...
C'est Tarantino, non. Ça m'évoque.
Tarantino, oui, il y a un peu de gore, mais je pense que on retrouve vraiment, je pense, la touche Tarantino dans le sens où, des fois, on a l'impression de lire la tranche de vie, et d'un coup, on sait pas d'où ça vient, ça explose dans tous les côtés.
D'accord.
Voilà, donc, vraiment, lisez The Fable.
Ça, franchement, le pitch est super original.
Moi, ouais, c'est une série qui comporte 11 tomes actuellement, donc foncez dans les librairies, elle est dispo partout. J'ai regardé.
Christophe, quel est ton manga sous-côté?
Alors moi, je vais pas faire comme les autres. Je vais plutôt parler et choisir une collection.
D'accord.
Plutôt qu'un titre en particulier. Et j'ai plutôt envie de parler de la collection Pika Graphique. En fait, qui est une collection qui est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver par ailleurs en manga. Et qui est une collection grand format avec des paginations un peu plus fortes que ce qu'on trouve dans le manga plus traditionnel, entre guillemets. Et qui peut être parfois en noir et blanc et parfois en couleur. C'est une collection qui, pour moi, est assez intéressante parce que, en fait, elle a pour objectif de proposer, de présenter des œuvres beaucoup plus littéraires que ce que peut proposer d'autres types de mangas, et notamment The Fable, et qui est assez proche du roman graphique. Donc, pour moi, ça s'adresse à un public qui est assez différent, qui peut lire beaucoup de bandes dessinées, et ça peut être un bon lien entre les lecteurs de manga et les lecteurs de BD. Et dans cette collection, il est abordé souvent des sujets d'actualité au travers de titres plus personnels et plus engagés. Voilà, c'est pour ça que cette collection, je la trouve plutôt intéressante. Voilà, il y a de très grands auteurs qui participent à cette collection. Il y a de très bons bouquins. C'est à la fois des titres en un volume ou des séries, mais toujours assez courtes. Voilà, et je pense que c'est à adresser à un lectorat un peu différent, avec une vraie volonté de faire découvrir de belles œuvres.
Il y en a pour tous chez Pickup Édition et chez Nobinobi finalement. Il y a un peu pour tous les
goûts. Clairement, enfin aujourd'hui, Pika et Nobi sont à eux deux des éditeurs très généralistes en fait. Sur le marché du manga et qui propose des lectures pour tous, du plus petit au plus grand, avec de l'action, enfin des titres décalés comme le disait Yann, et puis des titres un peu plus exigeants en termes de niveau de lecture.
Est-ce que t'as quand même un petit chouchou dans cette collection-là ?
Peut-être Dragonhead.
Ouais, c'est pas tout récent ça.
Non, c'est pas tout récent, mais ça a été réédité sous une nouvelle maquette et Pika a fait un super boulot et c'est vraiment une super série qu'on pourrait assez facilement redécouvrir.
Mais merci à vous pour ces recommandations, on espère qu'elles vous ont plu. On va pouvoir passer à la suite avec nos questions un petit peu plus sur le marché. L'explosion du manga ces dernières années, on en parle beaucoup parce que c'est vraiment un gros sujet et c'est aussi quelque chose dont on peut être très content quand on était comme moi et que personne ne lisait de manga quand j'avais 15 ans. Et du coup, on a un passage à un statut qui est un petit peu plus généraliste, mainstream maintenant. Et ça a dû changer votre métier récemment. Dans quelle mesure ça a pu évoluer ?
Alors, ça a un peu changé notre métier, mais le manga était déjà, c'est déjà démocratisé depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que ces trois dernières années, ça a totalement explosé. En fait, le constat qu'on fait, c'est que il y a beaucoup plus de magasins spécialisés qui se sont ouverts, puisque les gens se sont dit, ça marche super bien, donc on va ouvrir des points de vente. On va essayer de profiter de cette vague, d'attirer le lectorat qui est peut-être plus grand qu'avant, plus grand en nombre.
Et puis qui est en recherche surtout de manga spécifiquement.
Qui est en recherche de manga. Après, il y a eu effectivement peut-être une accélération de l'offre, mais c'est pas hyper significatif en fait. Il y a eu plus de propositions, mais pas tant que ça. Et puis on a un certain nombre de libraires qui n'étaient pas qui n'avaient pas vraiment d'appétence en fait à ce genre littéraire parce que ils n'avaient pas été nourris quand ils étaient plus jeunes à la culture du manga et ça leur faisait un peu peur de se lancer dans ce genre-là et du coup comme la demande a été un peu plus forte dans leur point de vente ils se sont dit allez on va y aller et c'est là où nous on a été plus que sollicité parce qu'il a fallu les accompagner, les aider à comprendre ce marché et les aider à définir la bonne offre pour leur magasin, pour leur typologie de clientèle, pour leurs consommateurs, leurs lecteurs. Donc c'est un peu ça qui a réellement changé ces dernières années.
Donc c'est l'apparition de ces magasins vraiment ultra spécialisés en manga, quoi.
Voilà, et quand même le développement de libraires plus généralistes, qui faisaient peu ou pas de manga parce que ils avaient pas forcément la connaissance pour se lancer là-dedans et qu'ont décidé de y aller parce qu'ils avaient une vraie demande, ce qu'ils avaient un peu moins avant.
Donc, on vient de l'évoquer, il y a plusieurs types de librairies finalement, donc généralistes, spécialisées, les petites librairies de quartier aussi, on a tendance à les oublier. Est-ce que c'est une difficulté du métier d'avoir différentes typologies de librairies ? Est-ce qu'on les gère différemment ? Comment ça se passe ?
Non, c'est pas du tout une difficulté. Il faut savoir déjà que tous les points de vente sont considérés de la même manière, c'est juste l'offre et la démarche qui va être différente.
D'accord.
C'est-à-dire que là où effectivement chez un spécialisé manga, on va bien évidemment plus appuyer, lui apporter bien sûr les détails commerciaux, mais aussi les résumés plus en profondeur de chaque titre, lui expliquer les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc. On est face à un public qui généralement connaît, et j'ai même envie de dire que des fois on leur apprend rien. Ils sont au courant de ces choses-là avant nous.
D'accord.
Donc c'est une manière de travailler qui est hyper intéressante.
C'est presque une facilité du métier du coup.
Oui, on va dire une facilité, mais je trouve que c'est mieux de dire que c'est une manière différente d'approcher le métier. Par contre, là où on a un véritable travail, c'est sur tout ce qui est librairie de quartier, librairie généraliste, tout simplement parce que eux ont moins de connaissances. Donc, c'est à nous de leur apporter cette connaissance, c'est à nous de les guider à faire les bons choix, et c'est à nous de cibler l'offre qui correspond le mieux à leur lectorat et à leur public, complètement. On va pas s'amuser à balancer, enfin, à faire commander tout le catalogue à une petite librairie de quartier si elle ne vend que du Blue Lock et que de l'Attaque des Titans. Voilà. Hein. Donc,
on va rester raisonnable.
Voilà. Donc, c'est à nous aussi, tout en essayant, bien évidemment, de trouver les petites pépites et les futurs coups de cœur des libraires généralistes.
Justement, on parle de visibilité entre guillemets, puisque on a des titres qui sont plus discrets dans le catalogue, forcément face à des Blue Lock ou à des L'Attaque des Titans qui ont peut-être entre guillemets du mal à faire le poids. Comment on gère ça, comment on équilibre le catalogue pour que tout le monde ait finalement sa chance?
Alors, pour équilibrer le catalogue, ça c'est ce n'est pas moi, hein. Moi je suis là pour répondre la bonne parole et prêcher le catalogue, ça c'est plutôt le travail de Christophe.
Et... Ouais, en fait c'est plutôt le chargé de libraire, etc. Ouais, c'est même Christophe qui va...
C'est plutôt le travail du siège de gérer ça avec les éditeurs.
Ouais, en fait c'est surtout à l'éditeur de nous donner une proposition, une ligne éditoriale qui soit la plus cohérente possible, la plus entre guillemets généraliste possible, qu'elle puisse s'adresser à l'ensemble des différents populations de lecteurs. Après, en fonction d'analyses chiffrées de ventes de titres sensiblement similaires ou des titres précédents d'une série, on détermine avec l'éditeur l'ambition en fait de vente qu'on a sur chacun des titres. Donc c'est ça qui fait que en fonction de l'ambition de vente, la visibilité est plus ou moins importante. L'enjeu quand même de notre métier à tous, à la diffusion, c'est que les titres du catalogue Pika et Nobi soient le plus visibles possible dans toutes les librairies qu'on visite.
Là-dessus, effectivement, sur la visibilité, c'est là que nous on intervient. Parce que je vous apprends rien, mais l'offre grandit, les librairies ne sont pas extensibles, hein, un petit coin de table c'est plus cher qu'un mètre carré parisien, donc il faut se battre pour chaque nouveauté, et il faut considérer toutes les nouveautés, toutes les nouveautés méritent d'être défendues. Après, bien évidemment, il y a des endroits où on sait qu'on va plus tourner vers une collection Nobi avec les classiques, les grands personnages de l'histoire, qui se trouvera plus facilement sa place dans des librairies jeunesse ou dans des petites librairies de quartier qui ont un public, un lectorat très jeune. Là où effectivement, chez le généraliste un peu plus conséquent, le spé manga, les shonen, seinen et shoujo grand public de Pika trouvent facilement leur place.
Donc finalement, l'équilibre du catalogue est vraiment géré par la partie éditoriale, et vous allez être plus en charge de justement amener les bons arguments aux libraires et aux diffuseurs pour que ils puissent donner leur chance à ces titres qui peut-être seraient passés inaperçus si vous n'avez pas été là pour les défendre.
Eh ben, c'est ça.
Ouais, c'est un peu ça. Après, on a le droit aussi, nous, de faire des recommandations sur un type de manga qui pourrait, je sais pas s'il y a une tendance à un moment ou à un autre autour de manga, peut-être la fantasy, la love comedy, la romance, au regard des analyses qu'on fait, on peut aussi conseiller à nos éditeurs de essayer de trouver des séries qui pourraient répondre à cette demande ponctuelle. Mais en règle générale, la ligne éditoriale et la cohérence du catalogue, elle est plutôt portée par l'éditeur.
Avant, en fait, ouais.
Avant.
Ouais. Vous êtes un peu le bras armé entre guillemets.
Voilà, alors le bras armé, oui.
C'est une métaphore, c'est une mauvaise métaphore.
Nous, on se qualifie plutôt comme l'ambassadeur, voilà, comme mieux. Les ambassadeurs de l'éditeur, mais oui, bien évidemment qu'on est le bras armé de l'éditeur. Ça, c'est...
On en a déjà parlé finalement en filigrane tout au long de l'épisode, mais il y a un gros atout dans la maison d'édition Pika, c'est que entre Nobi Nobi et les différentes collections Pika, il y a une variété de genres, de styles, de titres qui est incroyable et qui vous permet justement de proposer les bons titres aux bonnes librairies.
Ah bah c'est clairement un atout. Oui, c'est clairement un atout. Ils sont Pika et Nobi Nobi sont vraiment complémentaires. Hein. Leur offre est vraiment complémentaire, même si Nobi Nobi qui avait quand même un aspect beaucoup plus jeunesse avec beaucoup de kodomo ou de choses comme ça à sa création, est en train d'évoluer puisque ses lecteurs évoluent aussi et donc s'oriente un petit peu dans les pas de Pika en proposant des shonen beaucoup plus classiques qu'on peut retrouver un peu partout. Mais l'offre, elle est vraiment complémentaire et ça nous permet d'adapter au mieux à chaque point de vente, d'arriver et de dire au libraire, ne t'inquiète pas, je vais te mettre aux petits oignons. Donc c'est super.
clairement, la production des deux éditeurs, elle est hyper complémentaire et elle permet de s'adresser à toutes les tranches d'âge, pour tous les genres, avec toutes les envies de lecture. Yann parlait du Kodomo, qui est le manga pour les premiers lecteurs. Et tout à l'heure, je parlais de Pika Graphique, qui est une collection qui est plutôt à destination d'un lectorat plus adulte et plus proche de la bande dessinée. Et puis, au milieu, on a L'Attaque des Titans, qui est considéré comme étant un seinen, donc plutôt pour des ados. Blue Lock, qui est une série tout public. Et puis, Pika est aujourd'hui l'éditeur qui vend sur le marché le plus de shoujo, qui sont des mangas plutôt à destination des jeunes filles. Voilà, même si je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut lire un peu de tout en manga. Mais oui, la très grande force de Pika et de Nobi, c'est d'avoir une ligne éditoriale hyper large qui permet de s'adresser à tous les lectorats possibles.
Ça vous permet de pouvoir vraiment proposer le titre qu'il faut à la bonne librairie, que ce soit la généraliste, la spécialisée ou la de quartier, justement.
Exactement, tout à fait.
Et ben, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Un grand merci du coup à vous deux d'avoir répondu, de vous être prêté au jeu du Pick Up Podcast. Vous avez appris des tas de choses, encore une fois, je ne savais pas tout ça. Je ressors grandi de cette expérience. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur vos applications de podcast préférées et puis à poser vos questions en commentaire ou sur les réseaux de Pika Édition. On se fera un plaisir d'y répondre dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Encore une fois, merci Christophe, merci Yanaël. À bientôt dans le Pika Podcast.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.